passante, Laurence Pierre.
Eh oui, Born in the USA, ça s'imposait un petit peu après cette nuit américaine devenue nuit blanche, puis mauvais rêve pour certains. Born in the USA, c'était en 1984 et qui n'est pas, pour rappel, un hymne à la gloire des États-Unis, mais qui raconte le retour au pays d'un vétéran du Vietnam rejeté par ses compatriotes. Un constat plutôt amer, donc, plutôt que fierté nationale. C'est la bande passante et qui c'est le boss ce soir? C'est Bruce Springsteen. Born to Run, c'est le titre de cette autobiographie juste parue chez Albin Michel. Livre révélation, intimité d'une rockstar, les États-Unis d'Est en Ouest, un parcours et une humilité hors du commun. Se raconter est une drôle d'affaire, dit l'auteur. Pour évoquer les 630 pages de cet ouvrage colossal, nos invités ce soir, Nicolas Richard, le boss des traducteurs désormais, qui pourtant en a vu bien d'autres et non des moindres. Vous avez traduit par exemple Richard Powers, Nick Hornby, Art Spiegelman ou Richard Brautigan. Bonsoir Nicolas Richard.
Bonsoir.
Et Pierre Mikhaïlov, membre du salon des rock critiques de la bande passante, écrivain, journaliste, biographe de Taxi Girl à Bashung, de Jane Birkin, Nora Mons. Bonsoir Pierre Mikhaïlov.
Bonsoir Laurence Pierre.
Alors c'est un ouvrage qui balaie de long en large les États-Unis à travers ce héros d'aujourd'hui. Je parle de Springsteen de 65, ses débuts avec The Castles à aujourd'hui. Et ma première question, elle coulait de source un petit peu. J'avais envie de vous demander, est-ce que vous avez deviné quand vous avez lu ce livre énorme qu'un acteur de télé-réalité milliardaire, populiste et isolationniste serait aujourd'hui le 45e président des États-Unis?
Pas vraiment, mais on sait que Springsteen depuis toujours est un fervent démocrate, supporter du Parti démocrate,
très engagé pour pas mal de causes. On aura l'occasion d'y revenir.
Issu de la classe ouvrière. Et ce qui est très intéressant en lisant Born to Run, c'est que la plupart des thèmes qui ont été évoqués pendant cette campagne électorale américaine sont présents dans son livre.
Et pourtant, rien ne laissait présager ce qui nous est arrivé cette nuit, Nicolas Richard.
Quelques éléments pouvaient le laisser présager, mais en ce qui me concerne, j'ai fait partie de ceux qui sont restés un petit peu sourds à tout ça. Et moi, je suis encore assez abasourdi, en fait. Juste au passage, quand on parle de l'engagement...
Springsteen aussi, à mon avis, est abasourdi.
Certainement.
Hein, ouais.
Il a énormément soutenu Obama, il a soutenu Hillary au dernier moment et un petit peu du bout des lèvres.
Lundi, il était encore sur scène devant 40 000 personnes à Philadelphie, oui. Merci d'être là messieurs ce soir, Pierre Mikhaïlov et Nicolas Richard, pour évoquer Born to Run, Bruce Springsteen.
Yeah.
On est en 1966, Springsteen doit avoir à peu près 16 ou 17 ans avec ce groupe The Castles. Springsteen qui, comme la plupart des Américains, a une révélation en la personne d'Elvis Presley. Il écrit « C'était le précurseur d'un vaste changement culturel, une nouvelle sorte d'homme, un humain moderne brouillant les lignes entre les races et entre les sexes et qui s'amusait vraiment. Le bonheur suprême qui bénissait la vie, abattait les murs, changeait les cœurs, ouvrait les esprits. Le bonheur suprême d'une existence affranchi, plus libre. L'amusement vous attend, messieurs, dames, les Américains moyens, et devinez quoi, c'est votre droit inaliénable. » Est-ce que vous connaissiez les débuts de cette carrière de Springsteen avec The Castles?
Assez mal, mais j'avais déjà lu la biographie de Dave Marsh, qui est un journaliste américain, qui est proche de Bruce Springsteen, qui le suit depuis très longtemps, et il avait écrit une belle bio dans les années 70, et il évoquait déjà ses premiers groupes, et dans sa bio, il y avait ces photos marrantes de Bruce Springsteen dans son garage band.
Pourquoi avoir accepté de traduire cette histoire, Nicolas Richard, l'histoire de Springsteen?
Alors, c'est assez amusant, en fait, parce qu'il y avait énormément de secrets dans cette affaire. Donc j'ai été contacté par l'éditeur qui m'a demandé de venir dans les bureaux. Et on m'a dit en deux mots de quoi il s'agissait. Et ensuite, j'avais interdiction de sortir des bureaux avant de donner mon accord. Et donc j'avais tout le temps que je voulais pour lire le livre. Donc je suis resté plusieurs heures dans les bureaux avant de dire que oui, je le prenais parce que je trouvais ça passionnant. Par exemple, ce qu'il raconte sur Elvis Presley, quand gamin... les yeux qu'il porte sur ce gars du Sud, en fait, la tension sexuelle qu'il y a, les caméras qui cadrent le haut du corps parce que c'est trop émouvant pour le public, c'est
extrêmement bien raconté. Et il a les mêmes yeux d'enfant que quand il retrouve plus tard, bien plus tard à la fin du livre, les Rolling Stones sur scène d'ailleurs.
Oui, quand il reçoit un coup de fil de Mick, c'est comme ça qu'il dit. Qui lui dit, voilà, on va jouer dans New Jersey dans 2-3 jours, est-ce que tu voudrais jouer Tumble Dice avec nous? Et donc il se retrouve en salle de répète avec eux, et là c'est de nouveau un gamin, et il dit, voilà, c'était un garage band, ils étaient que 4, et puis j'entre dans le studio avec eux, on fait tourner une fois la chanson, et Mick me dit, c'est bon. Et le lendemain ou le surlendemain, il est sur scène avec eux.
Et malgré tout, c'est cette humilité que vous retenez, Pierre Mikhaïlov, de ce livre.
Oui, ouais, ça m'a frappé à plusieurs reprises la façon dont Bruce Springsteen parle de lui-même en se présentant comme un humble artisan. Et la façon dont il parle au contraire des artistes qui l'ont marqué, qui l'ont influencé. On sent son immense admiration pour des gens comme Elvis Presley, comme Bob Dylan, comme les Rolling Stones aussi. Et on sent que quelque part, il ne se sent pas au même niveau. Il a cette humilité qui est plutôt rare chez les rockstars.
Your name up on the girl's room wall and send you out to Maria, who spoke of babies and all and wanted to shoot your joy. It's a hard world when you're the new kid in town, ain't it, Henry boy? Well, the north side is for diamond studded women subtly selling their wares. And the west side is for debutantes and would-be millionaires. Well, the east side is for lost boys who know their moves too well. The south side is for gamblers, Henry, the train stops once for help. It's a hard world when they're forcing you to live your life out on Broadway. But Henry, I'm sure you're gonna like it well.
Ça s'appelle Henry Boy Springsteen, bien sûr, en 1972. Ça fait partie de ces inédits qu'on retrouve sur ce CD qui est livré parallèlement à ce gros ouvrage Born to Run. Il a 23 ans. 72, il joue aussi avec un groupe qui s'appelle Steel Mill. C'est avant le E Street Band et c'est l'année de sa signature avec son premier contrat. Notre première audition a lieu chez Atlantic Records, dit-il. C'est ce qu'il écrit. Tout ce dont je me souviens, c'est d'être monté dans un bureau, d'avoir joué devant quelqu'un pas intéressé. Ensuite, allez savoir comment Mike, c'est Mike Apple, son manager, a réussi l'exploit de m'obtenir une audition avec John Hammond, le légendaire John Hammond qui avait signé Bob Dylan, Aretha Franklin, Billie Holiday, un géant de l'industrie du disque. Je venais juste de lire la biographie de Dylan avec Anthony Scaduto et j'allais rencontrer l'homme grâce à qui cela avait eu lieu. Elle est incroyable cette scène, Nicolas Richard, où effectivement il dresse le portrait de ce manager. Vous avez été manager vous-même, donc c'est assez étonnant de voir la façon dont il raconte cela.
Oui, alors en plus il fait des raccourcis, donc on ne sait pas exactement la totalité de la trajectoire, mais c'est vrai qu'il se retrouve à jouer ses morceaux seul à la guitare, devant quelqu'un qui en gros va être en mesure de lui dire « Ok, on sort ton disque ». Même si ce sera suivi la signature d'une période assez longue où il n'aura pas un rond, il traînera dans son New Jersey natal en n'ayant littéralement pas un centime pour vivre. Il y a une petite chose que je voulais dire par rapport à tout à l'heure, c'est... On parlait de son côté fan. Il y a aussi un élément qui revient très souvent dans le livre et qui est intéressant, c'est la notion de travail. Il passe son temps à dire « Je suis un artiste, je ne suis pas modeste, je suis très conscient de ma valeur, mais je travaille. » Et à un moment donné, justement, quand la maison de disques va vouloir le virer, il dit « Mais c'est que nous, là, tous les musiciens, on ne sait rien faire d'autre, nous. Nous, on ne part pas, on a été signés, nous, on continue à faire de la musique. »
Vous dites c'est un bourreau de travail, Pierre Mikhaïlov. C'est vrai qu'il était capable de rester des heures, des jours, des semaines, des mois en studio.
Oui, alors c'est quelqu'un qui n'arrête pas. Il a cette culture de la classe ouvrière. Je pense que ça, c'est vraiment ancré en lui. Il a toujours vu son père bosser comme un malade pour faire vivre sa famille. Donc il a vraiment, je pense, cet instinct. Et puis, il a surtout un groupe de 7 ou 8 musiciens à faire vivre. Donc, il est obligé d'être tout le temps sur la route. Il est obligé de faire des albums et il est obligé de faire en sorte que ses albums marchent. Donc, au début, avant le succès, ils sont tout le temps en concert et pour gagner de malheureux cachets de 50, 70 dollars et tout ça pour faire vivre une équipe de 8 personnes. Donc, effectivement, il n'arrête pas de trimer. Et même une fois le succès arrivé, il va continuer à bosser comme ça. Comme vous le rappelez, à faire des albums entiers qu'il va jeter à la poubelle parce qu'il va s'apercevoir qu'ils sont pas au top. Donc, passer son temps en studio et sur scène, oui.
Last night I dreamed that I was a child out where the pines grow wild and tall. I was trying to make it home through the forest before the darkness falls. I heard the wind rustling through the trees, and ghostly voices rose from the fields. I ran my heart pounding down that broken path, with the devil snapping at my heels. I broke through the trees and there in the my father's house stood shining hard and bright. The branches and brambles tore my clothes and scratched my arms. But I ran till I fell, shaking in his arms.
My Father's House, Springsteen, sur son album Nebraska qui paraissait en 1982. Tous les deux, c'est votre album préféré. Pour quelle raison, Pierre Mikhaïlov?
Peut-être parce que c'est le plus atypique de sa discographie. Peut-être aussi à cause du moment où il est arrivé. Il arrive en 82, on est en pleine période de synthétiseurs, de dance music, de choses vraiment clinquantes. Et lui arrive avec ce disque tout dépouillé, enregistré sur un 4 pistes.
Il est seul finalement.
Il est seul avec sa guitare, sa voix, son harmonica. Donc ça faisait un bien extrême d'écouter ça en 1982.
Nicolas Richard, votre album préféré, pour quelle raison?
Je sais pas pourquoi. Je constate juste que je l'ai écouté plein de fois et que j'ai toujours autant de plaisir à le réécouter.
Et cette chanson, My Father's House, chanson triste qui parle de la maison de son papa, il avait une relation assez compliquée avec son père, non?
Il en parle vraiment très bien dans le livre de la relation à son père.
Il parle de tout le monde très bien, finalement.
Ouais. Avec en particulier cette capacité de parler de lui-même avec humour et dérision. À un moment donné, il commente le clip Born in the USA et il dit « Mais on était vraiment habillés n'importe comment, on était ridicules, c'est mon fils qui me l'a fait remarquer. » Et, je trouve que ça rend le livre très plaisant, cette capacité de se moquer de soi-même. Et puis du coup, oui, de parler des autres. Il explique qu'il a toujours voulu impressionner son père. Qui était bipolaire et a tendance à l'alcoolisme.
Ouais. Mm.
Et il dit, mais vous croyez que vous passez 4 heures par jour en séance de en salle de muscule quand vous n'avez pas besoin d'impressionner votre père? Et donc voilà, il y a toujours cette réflexion assez constamment intéressante, je trouve.
Quant à sa maman, c'est elle qui lui a offert sa première guitare.
Oui, sa mère est très importante aussi dans son parcours. Elle est toujours en vie d'ailleurs, c'est une vieille dame de 90 et quelques années. Il l'a invitée, il lui est arrivé de l'inviter sur scène aussi. Et quelque part, oui, elle est à l'origine de sa carrière, parce qu'elle lui offre sa première guitare électrique. Elle s'endette, elle prend un crédit pour payer la guitare. C'est vraiment une famille très très pauvre. Donc oui, personnage fort de la famille en fait.
Casino dance with their shirts open like Latin lovers on the shore, chasing all them silly New York virgins by the score.
Décrire un quartier, un mode de vie, et je voulais inventer une danse sans imposer de pas précis, juste la danse qu'on faisait jour et nuit pour tenir le coup, écrit Bruce Springsteen à l'époque de ce deuxième disque, The Wild, The Innocent and The E Street Shuffle, en 1973. Ce soir, nous lisons Born to Run. Nous poursuivons cette lecture après 3 minutes de l'état du monde. A tout de suite dans la bande passante.
La bande passante, musique. Laurence Pierre. I didn't have any idea whether it was going to be a book or something else, maybe just something for the kids, you know. So I just started, went back to the what I felt was the beginning and slowly started to write, you know. And I think after 2 or 3 weeks, I had a little bit of something that I could look at and say, that feels pretty workable. And then after that, I wrote intermittently for 7 years, you know, and there was no rush.
Springsteen qui raconte qu'il ne sait pas que ça allait être un livre, il savait même pas si ça allait être quelque chose pour les enfants. Il a commencé à écrire très lentement, après 2 ou 3 semaines il avait quelque chose qui lui semblait exploitable et ensuite il a écrit sporadiquement durant 7 ans. Springsteen qui dit se raconter est une drôle d'affaire dans un projet comme celui-ci, il faut laisser le lecteur entrer dans sa tête. Nicolas Richard, comment êtes-vous entré dans la tête de Bruce Springsteen? Comment avez-vous abordé son écriture? Qu'avez-vous découvert de lui à travers ses mots, à travers sa façon de s'exprimer sur le papier?
Il y a eu tout un secret autour de ce livre, hein, parce que la rumeur gonflait, enflait, Bruce Springsteen sortait son autobiographie, et on m'a demandé une fois, mais c'est quoi en fait, ça va être des poèmes, ça, c'est comme des paroles de chansons? Et ce qui frappe à la lecture du livre, c'est que c'est un conteur formidable. Il a des tonnes d'anecdotes, il a une expérience fabuleuse, c'est quand même un demi-siècle. C'est un territoire, essentiellement le territoire américain, mais enfin il a quand même tourné ailleurs. Et cette vision d'un gars totalement ancré dans le New Jersey, qui voit Manhattan, qui voit New York, mais c'est tout près, c'est à une heure, c'est à une demi-heure, mais c'est tellement loin, c'est tellement une autre vie. Et la façon dont il raconte les tournées, les premières expériences qu'il a, c'est truffé d'anecdotes qui sont assez passionnantes en général.
Rolling Stone a écrit « Le ton est relâché et décousu, plein de punchlines et de points d'exclamation d'un père qui adore envoyer des SMS ». Vous l'avez découvert comme ça également, Pierre Mikhaïlov? Alors, ce Springsteen-là.
Ouais, j'ai découvert plein de choses sur le Springsteen. Alors, j'ai peut-être pas trop vu le côté SMS, mais ce qui est intéressant, oui, c'est de voir que le bonhomme arrivé au fait de sa carrière revient toujours dans ce vieux New Jersey. Il n'arrive pas à s'en détacher. À un moment donné, il habite.
Il a un élastique à la patte.
Voilà, il habite une magnifique propriété en Californie. Puis, il s'aperçoit que sa ville natale, son état natal lui manque et il revient toujours vers ses racines. Ça, c'est côté très beau, très, très humain du personnage.
Nous lisons Born to Run de Bruce Springsteen ce soir dans la bande passante.
From cages on Highway 9, chrome wheel, fuel injected, and stepping
L'album de la consécration, l'album des débuts de la Bossmania Born to Run 1975. Vous étiez où en 1975, messieurs? Parce que forcément, on se raconte ce qui a accompagné cette époque-là. Non, je plaisante. J'ai écrit Born to Run assis sur le bord de mon lit dans une petite maison que je louais depuis peu sur West Long Branch au New Jersey. J'étais en pleine révision intensive du rock'n'roll des années 50 et 1960. Il écoutait tout ça sur son électrophone et il va plus loin. Springsteen écrit « Chez Duane Eddy, je suis allé chercher ce son de guitare caractéristique. De Roy Orbison, j'ai tiré le timbre rond de l'opéra. Chez Phil Spector, j'ai trouvé l'ambition de façonner un son puissant qui ébranlerait le monde. Je voulais élaborer un disque qui sonne comme le dernier sur Terre, le dernier disque qu'on pourrait entendre, le dernier qu'on aurait besoin d'entendre, un boucan glorieux avant l'apocalypse. Chez Elvis, j'ai capté l'énergie physique. » On y revient à Elvis Presley, et en ces quelques phrases, finalement, tout est dit sur l'histoire de la musique et tout est dit sur l'histoire d'un succès. On pourrait parler, revenir à Elvis, parler de Spector, le mur du son, du fameux saxophone de Clarence Clemons. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement en 75 pour que...
C'est le moment où Bruce Springsteen rencontre un personnage qui va devenir clé pour sa carrière, c'est John Lando, qui est un rock critique de Rolling Stone, qui a déjà produit un album du MC5 et qui a vraiment une vision du rock'n'roll. C'est le journaliste qui écrira après avoir vu un concert de Bruce Springsteen: j'ai vu le futur du rock'n'roll. Donc c'est quelqu'un de très important dans sa carrière, et tous les deux ensemble ils vont concocter finalement le disque ultime, le disque qui résume le rock des années 70 et qui réunit tout ce qu'ils aiment, c'est-à-dire Elvis Presley, c'est-à-dire la soul music, c'est-à-dire même un côté cinématographique, parce que le morceau qu'on a écouté là, c'est conçu comme un long métrage. Il y a des passages calmes, des accalmies, des passages violents. Le texte raconte toute une histoire aussi. Donc Springsteen a voulu tout mettre dans ce disque, parce que ce disque, c'est aussi le disque de la dernière chance. Et miracle, ça fonctionne.
Vous avez réétudié les textes de Bruce Springsteen, Nicolas Richard, à l'occasion de la rédaction de cet ouvrage. Et quelle différence entre sa façon de raconter justement des pièces cinématographiques dont parle Pierre Mikhaïlov et la façon de se raconter dans ce livre? C'est la même écriture?
C'est pas la même écriture. Il explique assez tôt, parce qu'il est passé par une phase de musicos, une phase où il bossait énormément la guitare, et il était dans un groupe presque à la Jimi Hendrix, et il explique qu'à un moment donné, il a été conscient qu'il fallait que son point fort, ce serait les textes. Donc, et parallèlement, quand on lit le livre, on entend ce goût de raconter l'anecdote, ce goût de mettre en valeur les personnages qui l'entourent. À chaque fois, à chaque phase, parce qu'il y a une centaine de phases dans cette carrière, il explique, là tu parlais de John Lando, il explique que c'est grâce à telle rencontre, grâce à telle personne qu'il est passé à l'étape suivante. Et ça, il y a une grande générosité là-dedans, je trouve.
He sensed that things might not work out, that the moral high ground had been swept out from underneath us, that the dream we had of ourselves had somehow been tainted, and the future would forever be uninsured, was in the air. This was the new lay of the land, and if I was going to put my characters out on that highway, I was going to have to put all these things in the car with them. And there's no going back. Highway patrol choppers coming up over reach. Hot soup on a campfire in the breach. Shelter line stretching round the corner. Welcome to the new world order. Family sleeping in their car in the southwest. Job, no peace, no rest. Well, the highway is alive tonight, but nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire line, searching for the ghost of Tom Joe. He pulls a prayer book out of his sleeping. Preacher lights up a button and takes a drag.
waiting for when the last shall be first and the first shall be last. In a cardboard box near the underpass, got a one-way ticket to the promised land. You got a hole in your belly and a gun in your hand, sleeping on a pillow of solid rock, breathing in the city going down. The highway is alive tonight. The way it's hit it, everybody knows. I'm sitting down near my campfire line, waiting on the ghost of Tom Joe. There's a cop beating a guy. Wherever a hungry newborn baby cries, there's a fight against the blood and hatred in the air. Look for me, mama, I'll be there. But there's somebody fighting for a place to stay, a decent job or a helping hand. Somebody's struggling to be free. Look in the eyes, mom, you'll see me. The highway is alive tonight. And nobody's kidding nobody about where it goes. I'm sitting down here in the campfire light with a ghost of old Tom Joe.
On écoute tous les trois très religieusement ce titre, The Ghost of Tom Joad, qui sortait en 1995. C'est aussi le titre de cet album. Qu'est-ce que ça vous évoque, messieurs, Pierre Mikhaïlov?
En écoutant les paroles, je repense à une chose que dit Bruce Springsteen dans son livre. Et je crois que c'est le seul chanteur à ma connaissance qui utilise ce procédé. Les personnages qu'il invente dans ses chansons, il les suit d'album en album. Et sur cet album, on a un petit peu la suite des aventures des personnages qui sont dessinés dans Nebraska. Et ça, en même temps, ça raconte l'histoire des États-Unis.
Et en même temps, Tom Joad, c'est un personnage principal dans Les Raisins de la Colère de Steinbeck, Nicolas Richard.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que il y a ce souci de la durée. Et il explique, par exemple, qu'il en veut aux fameux musiciens qui sont morts à 27 ans. À ceux qui se sont suicidés. Et il dit, mais...
Pourquoi vous êtes parti?
Il dit, mais c'est dommage, parce que moi, j'aurais envie de savoir ce que ferait Jimi Hendrix à 50, à 60 ans. Je suis sûr que ce serait bien. Et je suis sûr qu'avec son public, il y aurait une connivence. Et ça, finalement, c'est un discours qui est assez intime et qui est assez puissant, je trouve. De dire, évidemment, le rock'n'roll, c'est la musique de la jeunesse, c'est la musique de l'adolescence. Mais c'est très intéressant aussi ce qui se passe après.
Ouais, il dit que c'est plus dur finalement de vivre et de durer que de partir en fumée à 27 ans.
Et il y a quelques très très belles lignes sur les récents concerts de Bob Dylan justement. Et il dit, mais j'adore, alors je sais plus le terme exact, mais j'adore son son de bastringue là. Donc il y a toujours un peu d'ironie dans la façon d'en parler, mais en même temps il est très admiratif de ces artistes musiciens capables de tenir sur la durée.
Et puis ça pourrait être l'occasion d'évoquer aussi son engagement social et politique, Les Raisins de la Colère, le soutien à Obama en 2008, on l'a dit tout à l'heure, il a été militant pour les droits des homosexuels, contre l'utilisation de l'énergie nucléaire. Voilà, c'est quelqu'un qui y allait quand il fallait. Hein.
Toujours
engagé.
Et c'est
important,
ouais,
dans cette Amérique-là. J'ai retrouvé une anecdote aussi. Il a fait un chèque de 10 000 dollars en 1985 au bureau d'aide sociale de Saint-Étienne, en France, alors sinistré par la crise économique avec la fermeture de Manufrance.
Oui, absolument. Alors ça,
c'était ça, Springsteen aussi.
Voilà, j'ai des amis qui sont stéphanois et ils en parlent encore.
C'est vrai.
Ils en parlent encore. C'est la venue de Springsteen à Saint-Étienne était dans une ville ouvrière, quelque part un équivalent du New Jersey français. C'était très important pour les habitants de Saint-Étienne. Et effectivement, ce geste magnifique de laisser un chèque pour les chômeurs de la ville a été très apprécié et les gens s'en rappellent encore.
Springsteen qui écrit comme il ferait un film, comme il ferait des images, comme il ferait des peintures. Je pense à son album The Rising, par exemple, où là, il dépeint des faits assez incroyables et tout le monde a besoin de revivre.
Oui, ça, c'est juste après le 11 septembre. Et le côté cinématographique de Springsteen est toujours présent. Souvent, ses chansons sont inspirées de films. Il y a Badlands, qui est un film de Terrence Malick. Vous citiez Les Raisins de la Colère aussi. Ce sont des Taxi Driver, aussi un film important pour lui. Il a un rapport avec Paul Schrader, le scénariste de Taxi Driver. Donc, il y a tout ce côté cinéma qu'on trouve présent dans ses chansons aussi.
Can't see nothing in front of me. Can't see nothing coming up behind. Make my way through this darkness. I can't feel nothing but this chain that binds me. Lost track of how far I've gone. How far I've gone. Backs of 60-pound stone on the shoulder half mile of line. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up for the rising tonight. Left the house this morning. Bells were ringing, felt the air. I was wearing the cross of my calling. On wheels of fire, I come rolling downhill. Come on up for the rising. Come on up, lay your hands in mine. Come on up for the rising. Come on up.
Sky full, the sky.
Born to Run, l'ultime biographie de Bruce Springsteen, où l'on découvre un personnage humble, aimant, engagé, presque parfait, musical, littéraire, enfant aussi. Il est dépressif également, on ne l'a pas évoqué.
Oui, on le découvre sous toutes les facettes que vous évoquez, et aussi on découvre ses faiblesses parce qu'il n'hésite pas à en parler, à parler de, effectivement, de ses phases de dépression où il se pose d'énormes questions sur son devenir. Il n'hésite pas à parler à ses problèmes d'enfance, sa relation compliquée avec son père. Il y a toutes ces choses qu'on découvre effectivement dans cette belle et très juste, très honnête biographie.
Et on ne sait toujours pas pourquoi il est capable, il est l'un des rares artistes à donner des concerts de 4 heures d'affilée sans s'arrêter. Peut-être dans cette phrase qu'il dit, bizarrement, exposé devant des milliers de personnes, je me suis toujours senti totalement en sécurité. C'est pourquoi pendant nos concerts, vous ne pouvez pas vous débarrasser de moi. Quelqu'un qui était pas si costaud que ça finalement, mais parfaitement à l'aise sur scène.
Ouais, voilà, c'est le moment où il est lui-même, le moment où il sait qu'il n'a pas le droit de montrer ses failles. Et si les concerts de Bruce Springsteen sont aussi longs, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui parle énormément sur scène. Il le fait peut-être moins en Europe, dans les pays qui ne sont pas anglophones, mais aux États-Unis, il peut faire des monologues de 5 minutes entre les chansons. Donc ça fait les 4 heures de concert à l'arrivée.
Nicolas Richard, quel sentiment quand vous avez eu fini de traduire la dernière page de ce livre de 630 pages. Quel souvenir allez-vous garder de ce voyage avec Bruce Springsteen ?
À la dernière page, comme à la première page, j'ai le sentiment d'avoir passé un bon moment avec un ami. Je ne l'ai jamais rencontré, j'espère bien le rencontrer, mais il y a cette proximité dans la façon dont il raconte qui fait qu'on est en compagnie agréable.
Merci d'avoir été là, messieurs, ce soir, Pierre Mikhaïlov et Nicolas Richard, pour la traduction de Born to Run de Bruce Springsteen chez Albin Michel. Merci beaucoup. Bonsoir.
Merci.
They bring you up to do like your daddy done. Me and Mary, we met in high school when she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down
également en compagnie de Pierre Vallée et Sandrine Straram. Merci à vous. Demain, c'est une autre histoire. Nous serons en compagnie de Richard Bonnat, la page Facebook de la bande passante pour laisser vos commentaires et vos émotions si vous le souhaitez. Et puis bien sûr, rfi.fr pour retrouver tous les enregistrements de ces émissions. Portez-vous bien et à demain.